Il est bon pour nous d'être dans sa présence. Merci Annie pour ce témoignage. Merci vraiment au Seigneur parce que c'est lui qui vient nous chercher dans notre désespoir, dans notre désillusion. Le Seigneur est toujours prêt. Même quand nous disons qu'il n'y a plus de possibilité, nous savons que Dieu connaît nos cœurs. Et quelles que soient les circonstances, il est toujours prêt pour tendre la main afin de nous arracher des ténèbres pour nous faire vivre dans sa lumière. À lui soit toute la gloire. Amen. J'aimerais juste vous poser une question. Avez-vous déjà perdu quelque chose qui ne vous appartient pas? Quelque chose que vous avez emprunté et qui, par maladresse ou par concours de circonstances, vous l'avez perdu. Ça vous est déjà arrivé? Non. Sûrement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? Et pourtant, le récit que nous allons voir nous parle d'un homme qui avait emprunté quelque chose. Et qui, par maladresse, a perdu. Vous savez, Dieu a donné la vie à tous les hommes. Mais les hommes, malheureusement, ont perdu cette vie que Dieu leur a donnée à cause de leur désobéissance. Donc, ne me dites pas qu'un jour, vous n'avez pas perdu quelque chose. Tous les hommes, un jour ou l'autre, nous avons eu à perdre quelque chose qui ne nous appartenait pas. La vie que nous avons, le Seigneur nous l'a prêtée. Il nous l'a prêtée un instant. Et un jour viendra où il nous la redemandera. Et alors, nous saurons réellement que cette vie que nous avons sur cette terre ne nous appartient pas. Si les hommes pouvaient le réaliser, si les hommes pouvaient l'admettre et l'accepter, que leur vie aujourd'hui ne leur appartient pas, mais la vie que nous avons appartient au Dieu de la vie. C'est lui qui est venu communiquer la vie. Et ce récit, vous le connaissez, se trouve dans le deuxième livre des Rois. C'est le récit qui nous parle de ce miracle qu'Élisée va réaliser. Les 6 premiers versets nous parlent de cet homme, un des fils des prophètes. Il nous est dit ceci. Ils dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. » Nous prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Nous pouvons dire que ce récit est anodin parce que pour nous, qu'est-ce qu'un fer? Qu'est-ce qu'un morceau de fer? Mais pour cet homme, c'était plus qu'un morceau de fer. C'était quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et quand on doit remettre quelque chose qui ne nous appartient pas, il faut arriver à restituer la chose sans qu'il y ait des dégâts. Et qu'est-ce que cet homme allait pouvoir dire à celui à qui il avait emprunté cette hache? Il ne pouvait pas simplement aller lui dire, « Excuse-moi, tu sais, j'ai essayé de couper le bois, mais malheureusement, le fer est tombé dans l'eau. Tiens le restant. » Il ne pouvait pas se permettre d'aller simplement pour lui dire « Excuse-moi ». Il devait restituer. Voyez-vous, on ne se rend pas compte Il faut que les hommes puissent réaliser qu'un jour viendra où ils rendront compte à Dieu. La Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu lorsqu'il se tiendra devant Dieu. Un jour, tous les hommes se tiendront devant Dieu. Que l'on le veuille ou pas, je me tiendrai devant Dieu. Tu te tiendras devant Dieu. Et là, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Alors, ce récit nous parle de ce groupe de personnes, les fils de prophètes, qui vont reconnaître que le lieu sur lequel ils se tenaient était trop étroit et donc il fallait élargir, il fallait agrandir. Et pour agrandir, il faut le nécessaire, il faut le bois. Et pour le bois, il faut aller couper. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tout se trouve au magasin. On se lève, on tape sur Internet et on sait dans quel magasin se trouve ce dont nous avons besoin. Et hop, on prend la voiture et on file. Ce n'était pas pareil. Les époques ont changé et ces hommes vont aller jusqu'au Jourdain. Mais avant d'y aller, ils vont quand même demander l'approbation d'Élisée. Ils vont demander son approbation. Et il est bon quand même que les hommes cherchent toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous ne pouvons pas décider d'exécuter nos projets à coups de vent. Nous ne pouvons pas décider de faire les choses comme bon nous semble. L'homme a toujours besoin de reconnaître qu'il n'est pas maître de son destin, mais qu'il a besoin de chercher la volonté. Combien à plus forte raison l'enfant de Dieu, lui à qui sa vie ne lui appartient plus. Nous avons vu ce matin Paul qui déclare, sa vie l'importe peu et cette vie qu'il a là, il ne la vit plus pour lui-même, mais il la vit pour celui qui l'a sauvé. Alors, puisqu'il en est ainsi, prenons-nous toujours le choix d'aller vers le Seigneur pour demander son approbation. Parce que ça peut paraître une bonne idée dans notre tête. On se dit, oh, c'est un bon projet. Ah, j'ai un bon projet. Vous savez, on l'entend toujours. Hein? Ah, pasteur, j'ai un projet. Eh bien oui. Eh bien oui, on a tous des projets. Mais si on devait toujours exécuter tous les projets que l'on a en tête, on n'aurait même pas le temps de tous les faire. D'où la nécessité de chercher la volonté de Dieu. Et cela montre à quel point, nous savons qu'il connaît tout. En cherchant la volonté de Dieu, nous savons qu'il peut tout. Nous savons qu'il est au-dessus de tout. Nous savons qu'il est ce Dieu souverain, ce Dieu qui veut toujours le bonheur des hommes. Alors, ils cherchent l'approbation et ils vont l'avoir. Élisée leur dira, allez-y, vous avez cette idée, elle n'est pas mal, exécutez-la. Un va dire, ah non, c'est pas ça, ça se passera pas comme ça. Oui, tu nous donnes ton approbation, mais nous voulons plus que ton approbation. Nous voulons que tu viennes avec nous. Frères et sœurs, il est bon que les hommes puissent inviter Dieu, non pas chercher simplement à connaître sa volonté, mais à chercher à ce que Dieu marche devant nous, à ce que Dieu nous accompagne dans nos projets. Oui, il va dire, consent à venir avec tes serviteurs. Quand on invite Dieu, quand on invite le Seigneur, il saura venir à nous. Parce que Dieu ne s'imposera jamais à quelqu'un. Dieu ne va pas s'imposer dans nos vies, dans nos cœurs. Il ne va pas s'imposer dans nos projets. Il attend simplement que nous lui fassions appel. Et il viendra à notre secours. Alors, qu'il est bon, nous l'avons chanté, de chercher la présence de Dieu, de chercher à ce qu'il soit à nos côtés chaque jour. Il va dire, Élisée, j'irai. Ah, je bénis Dieu Parce que lorsqu'on le cherche, lorsqu'on veut que Dieu, que le Seigneur marche avec nous, il viendra toujours à nos côtés. Il sera toujours là pour nous montrer le chemin. Et cet homme n'avait pas tort d'inviter Élisée en lui disant, nous ne cherchons pas simplement ton approbation, nous voulons que tu viennes. C'est pour cela qu'il est bon que les hommes sur cette terre puissent faire un pas de plus. Oui, c'est bon de chercher la volonté de Dieu, mais c'est aussi bon de dire, Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu marches devant nous parce que, vous savez, nous ne savons pas ce qui peut advenir d'une minute à l'autre. Nous ne savons pas ce qui peut venir dans notre vie. Nous ignorons tout parce que nous sommes limités. Mais Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est omniscient, il sait par avance, il connaît déjà ce qu'il adviendra dans nos vies. D'où la raison pour nous de chercher à ce qu'il marche avec nous tous les jours. Il coupe le bois et voilà que le fer va tomber dans l'eau, dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Ça, en hébreu, le mot Jourdain veut dire rivière de la peine. Rivière de la peine. Rivière du jugement. C'est dans cette rivière-là que le fer va tomber. Il avait de la peine. Il allait être jugé s'il ne restituait pas cet objet-là. Mais c'est dans ce même fleuve, dans cette même rivière du Jourdain que Jésus va être baptisé. Malgré que ce soit la rivière de la peine, la rivière du jugement, Jésus va être baptisé dans cette même rivière-là, montrant par là qu'il est au-dessus de celui véritablement qui sait anéantir toutes les difficultés qui peuvent s'opposer à nous si nous lui faisons confiance. C'est dans ce fleuve-là que il va y avoir cette triste nouvelle pour cet homme. Le fer qui tombe dans l'eau, ça montre là les vies perdues dans ce monde. Nous l'avons chanté tout à l'heure, dans le royaume de Dieu, les vies brisées sont restaurées. Mais il n'y a que dans le royaume de Dieu. À part dans ce royaume, les hommes sont perdus. Et nous voyons autour de nous combien les hommes sont perdus. Bien qu'ils vivent, ils ont perdu quelque chose. Ce monde qui vit en contresens de la volonté de Dieu, malheureusement, est appelé à disparaître un jour. Et ce monde avec sa convoitise, avec toutes ses attirances, il essaye d'appeler les hommes, il essaye d'attirer les hommes. Et malheureusement, l'homme ne sachant pas avec qui se tourner, il se livre à ce monde et à toutes ses convoitises. Et quand il se livre à ce monde, il perd l'essentiel. Paul nous rappelle ceci dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Il nous montre par là cette vie perdue que les hommes ont quand ils sont sans Dieu. Vous étiez morts par vos offenses, dira l'apôtre, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous étiez morts par vos offenses. Il rappelle à ses croyants leur vie perdue sans Dieu. D'ailleurs, quelques versets plus loin, Paul va le dire. Il dira ceci, c'est pourquoi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Alors que nous savons que l'évangile, c'est le message d'espérance. Oui, quand les regards sont tournés vers le Seigneur, l'espoir renaît. Parce qu'il est le Dieu de toute espérance. Il est celui qui est venu redonner de l'espoir. Annie l'a dit dans son témoignage. Elle n'avait plus goût à la vie. Elle voulait même se supprimer. Jusqu'au jour où elle va entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, ce message d'amour, ce message de paix, ce message d'espérance. Et comme elle l'a dit en deux réunions, son cœur va être envahi par l'amour de Dieu et elle n'avait même plus besoin de se supprimer. Il n'y a que Dieu qui peut transformer une vie pareille. Dans son royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans son royaume, quand les regards sont sur lui, il transforme notre désespoir. Notre monde est plongé dans un désespoir. Il n'y a qu'à écouter les informations. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe autour de nous. Les hommes sont désespérés. Il y a tellement de la désespérance. Parfois, ça se voit même sur le visage. Parfois, les hommes le cachent. Mais ça se voit. Les hommes sans Dieu sont sans espérance. C'est Dieu qui donne la vie aux hommes. Mais par la désobéissance de l'homme, il s'est détourné de Dieu pour ainsi perdre la vie que Dieu a voulu pour lui. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme jouissait de la présence de Dieu, il jouissait des bienfaits de Dieu dans ce jardin. Mais malheureusement, par sa désobéissance, Dieu va fermer la porte du jardin pour l'empêcher d'aller plus loin. Parce que s'il continuait, il vivrait éternellement séparé de Dieu. Il y a là quand même quelque chose d'important dans l'attitude de cet homme. Alors que ce qu'il avait emprunté, il voyait cela partir sans pour autant pouvoir faire quelque chose. Il reconnaît son incapacité. Il reconnaît sa misère. Il reconnaît sa souffrance. Il va dire, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Quel cri de désespoir. Quel cri de détresse. Il aurait pu se dire, « Peu importe, il pourra s'en acheter un autre. » Non, il était dans l'obligation de retourner ce qu'il avait emprunté. Tout comme les hommes, nous avons cette obligation de rendre un jour à Dieu ce qu'il nous a confié, parce que la vie ne nous appartient pas. Il reconnaît son incapacité, sa misère, et c'est justement lorsqu'il se sent impuissant que le prophète va agir. C'est là que le prophète va agir. Il voit la souffrance de cet homme, tout comme Jésus voit la souffrance des hommes. Il voit la misère de cet homme, tout comme Jésus voit la misère des hommes. Un jour, il a vu ma misère. Un jour, il a vu votre misère. Et il veut encore voir la misère des hommes. Quand il va voir la misère de cet homme, il va dire à cet homme, « Où est-il tombé ? Où est-il tombé ?» Vous savez, lorsque Adam va désobéir à Dieu, il va aller se cacher. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il se présente à lui en disant, « Adam, où es-tu? Où es-tu? Tu crois que je ne vois pas ta souffrance? tu te crois, tu te caches en croyant que je ne vois pas voilà, ta misère. Parce que nous pouvons cacher des choses aux hommes, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Et malheureusement, l'orgueil de l'homme l'empêche de reconnaître sa misère. Notre orgueil parfois nous empêche de reconnaître notre incapacité et notre besoin de Dieu. Et la conséquence, c'est que nous souffrons, nous sombrons dans notre souffrance. Les hommes sombrent dans leur misère. Les hommes s'épuisent et malheureusement, certains arrivent même à maudire Dieu parce qu'ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Annie l'a dit, elle voulait en fin de compte se supprimer sa vie parce qu'il n'y avait aucun espoir. Au psaume 107, nous voyons là le Seigneur, l'Éternel qui va agir en faveur de son peuple. Malgré le rejet, il va y avoir leur cri qui va monter. Alors qu'ils étaient dans la détresse, dans la souffrance, dans la misère. Le psalmiste commence en disant, « Louez l'Éternel car il est bon. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans leur solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Si on s'arrête là, on se dit, mais aucun espoir, aucun échappatoire. Souffrir de la faim et de la soif, si rien n'est fait, c'est la mort assurée. C'est la mort. Mais c'était sans compter que si l'homme fait pousser son cri vers celui qui est l'auteur de la vie, il peut se passer des choses. Il nous est dit au verset 6, dans leur détresse. Dans leur détresse. Parfois, il faut que l'homme sente sa misère, sente sa détresse pour reconnaître son incapacité à se venir en aide lui-même. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Quelle grâce ! À quatre reprises, il nous est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur verset 13, verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Il les délivra. Ce même Dieu est encore présent aujourd'hui, malgré notre société qui s'agite, malgré tout ce que nous voyons, nous savons que le Seigneur est à la porte et il y a beaucoup d'événements qui se mettent en place. Mais quand l'homme sent sa misère, quand il va reconnaître son incapacité à se venir en aide lui-même et quand il va pousser un cri de détresse, le Seigneur entendra et il lui viendra en aide. Que son nom soit béni. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu ne ferme pas ses yeux face à la souffrance des hommes. C'est ce qu'Élisée va faire. Quand il va voir la misère de cet homme, ah, il ne va pas se dire, oh, tant pis pour toi. Fallait que tu fasses attention. Ça aurait été nous, peut-être, c'est ce qu'on aurait dit. Allez, débrouille-toi, fais ce que tu as à faire, mais de toute façon, restitue, voilà. Mais il va voir la misère, la souffrance de cet homme, parce qu'il était incapable lui-même de retrouver ce qu'il avait perdu. Et c'est là qu'il va lui venir en aide, en jetant ce morceau de bois pour apporter le remède. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 25, nous voyons que ce même symbole, le bois qui est le symbole de la croix de Jésus, va être jeté dans l'eau par Moïse sur la recommandation de l'Éternel. Alors que Israël, dans le désert, avait soif, ils vont arriver à un lieu appelé Mara. Et là, l'eau qu'ils vont boire était amère. Ce n'était pas de l'eau buvable. Et ils vont crier à Moïse. Ils vont lui dire, mais voilà, l'eau est amère. Et c'est là que Moïse lui-même va faire appel à Dieu. Il va crier à Dieu. Il va demander secours à Dieu. Et Dieu va lui montrer ce qu'il avait à faire. Il dira à Moïse, tu jetteras un morceau de bois dans l'eau. Et quand il va faire ceci, l'eau va être claire. L'eau va s'assainir et les Israélites vont pouvoir boire cette eau. Et nous voyons là l'image de Jésus qui est venu livrer sa vie à la croix. Lorsque les hommes étaient là dans leur misère, dans leur souffrance, incapables de se sauver, il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est sur ce bois de la croix que Jésus va être crucifié. Il va livrer sa vie. Il va se donner lui-même. Il va être là comme une victime pour que l'humanité tout entière puisse goûter à l'amour de Dieu. Mais c'est seulement et uniquement seulement celui qui aura fait confiance, qui aura placé sa foi en Jésus, qui verra la gloire de Dieu dans sa vie. Élisée va utiliser ce même moyen-là pour ramener à la surface le fer. C'est par la mort de Jésus-Christ à la croix que nous sommes rendus à la vie. Après avoir parlé de cette vie perdue où les chrétiens d'Éphèse étaient là sans Dieu, sans espérance, Paul va tout de même leur communiquer un message d'espérance, un message de vie. Alors qu'ils étaient éloignés de Dieu, par leurs offenses, l'apôtre dira ceci au verset 4 et verset 5. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Il va dire ceci. Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendus à la vie. Lorsque Élisée va jeter ce bois dans le Jourdain, le fer va surnager, montrant par là la puissance. Quand Jésus va s'offrir à la croix, il va s'offrir en rançon pour le salut de l'humanité tout entière. Et quel que soit le péché, même si le péché était grave aux yeux de Dieu par sa mort sacrificielle, il l'a rendu à la vie, ceux et celles qui lui font confiance. La puissance de la croix, la puissance de ce bois que les hommes encore aujourd'hui négligent, c'est sur ce bois que Dieu a livré sa vie pour que nous ayons la vie que nous avons. La vraie vie ne peut être rendue à l'homme que par Jésus. Je termine avec ce passage de Luc chapitre 19. Lorsque Jésus va faire la rencontre avec Zachée, et beaucoup vont le reprendre parce qu'il est allé loger chez un pécheur. C'était sans en réaliser que c'était le but même de sa venue sur la terre. Il dira lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Pour ceux qui ne sentent pas leur misère, leur souffrance et leur besoin de Dieu. Mais je suis venu pour celui-là qui se reconnaît incapable de se sauver lui-même. Celui-là qui reconnaît son incapacité, qui sent sa misère et qui crie à lui. Il est là pour sauver. Il va dire ceci, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver J'étais perdu, mais Jésus m'a sauvé. Nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Beaucoup sont encore perdus et Jésus veut les sauver. Oui, c'est ce message d'espérance. Jésus va répondre aux critiques en disant, en voilà qu'il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il rend la vie. Il rend la vie. La vie éternelle. La question, est-ce que les hommes veulent de cette vie en Jésus? Chacun essaie de se débattre. Chacun essaye de trouver le chemin par lui-même. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Oui, nul ne vient au Père. En conclusion, l'Évangile, ce n'est pas de la théorie. L'Évangile, ce ne sont pas simplement des paroles. L'Évangile, c'est plus que des paroles, c'est un message de vie, c'est un message d'espérance, c'est un message de salut, c'est un message avant tout d'amour, parce que c'est dans son amour que Dieu communique la vie, c'est dans son amour que Dieu redonne l'espoir, c'est dans son amour que Dieu restaure les vies brisées. Cet après-midi, peut-être quelqu'un me dira qui n'a pas perdu sa vie. Mais peut-être que tu es dans une situation où tu te sens incapable, impuissant par toi-même, où tu réalises que même ceux qui t'aiment, qui sont à côté de toi et qui t'aiment, sont incapables de te venir en aide. Alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées, veux-tu faire appel à celui-là seul qui est capable de te venir en aide? Y a-t-il quelqu'un qui, dans son désarroi, dans sa situation, veut sentir son incapacité, sa misère, mais reconnaître en Jésus le Tout-Puissant, le Dieu digne de confiance, celui-là seul qui soit capable, voilà, par sa parole, de faire surmonter ce qui a été enfoui? Il est capable de redonner un sens à ta vie. Veux-tu simplement lui faire appel? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que l'on prie? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de la grâce de Dieu? En se disant, Seigneur, cette situation me dépasse. Cette situation est hors de ma portée. Mais j'ai besoin de toi. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Savez-vous, nous sommes devant Dieu et nous voulons mettre notre foi en action. Oui, nous voulons placer notre confiance. Cet homme a eu confiance en Élisée quand il va dire « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Il a fait confiance. » Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, devant cette eau imbuvable, ils vont faire confiance à Moïse. Et Moïse lui-même va faire confiance à Dieu. Il va crier à Dieu et Dieu va lui montrer le remède, la solution pour que le peuple ne meure pas, mais qu'il retrouve la vie. Cet après-midi, ce même Dieu-là est là au milieu de nous. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème, il connaît ton désarroi. Veux-tu simplement, en toute humilité, lui faire appel? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que Dieu connaît même les pleurs au-dedans de nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? On va prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans leur détresse, ils ont crié à toi. Seigneur, tu vois la détresse de ceux et celles qui te font appel en ces instants. Ce n'est pas devant un homme qu'ils se tiennent, parce que l'homme est incapable, devant certaines situations, de faire quoi que ce soit. Mais ils font appel à celui qui a livré sa vie. Ils font appel à celui qui connaît tout. Ils font appel à celui qui peut tout. Ils font appel à celui qui a endossé tout le poids de l'humanité tout entière. Seigneur, nous mettons notre foi en action devant toi cet après-midi. Et nous crions à toi, Seigneur. Dans leur détresse, ces frères et sœurs crient à toi, Éternel. Tu nous as dit dans ta parole que lorsqu'un malheureux crie, tu entends et tu le délivres de ses détresses. Qu'il en soit ainsi cet après-midi. Alors que, Seigneur mon Dieu, les cœurs soupirent, alors que, Seigneur mon Dieu, la situation semble impossible humainement parlant, Seigneur, étends ta main de grâce. Oui, cette main de compassion, et viens en aide, quel que soit le besoin. Seigneur, nous crions à toi. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre monde est en souffrance. Et parce que nous sommes dans ce monde, nous sommes parfois aussi en souffrance. Seigneur, mais notre assurance et notre espérance, c'est que tu es à nos côtés. C'est que tu es avec nous. Et tu ne fermes pas tes yeux ni tes oreilles face à la souffrance et à la misère de ceux qui craignent ton nom et qui te font appel. Alors, Éternel, je veux bénir ton saint nom. Seigneur, nous prions également que dans leur détresse, un bon nombre de personnes crient à toi, Seigneur, dans ce monde. Dans cette ville de Gap, Seigneur, nous réclamons la puissance de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, pour pousser un plus grand nombre à crier à toi, Seigneur, mon Dieu, à reconnaître en toi le seul qui soit capable, Seigneur, de les délivrer de la mort éternelle, Seigneur. Révèle-toi un plus grand nombre éternel. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Fais grâce. Fais grâce maintenant et glorifie ton saint nom. À toi seule la gloire. Amen. Seigneur, étends ta main sur les malades. Si quelqu'un est au milieu de nous et souffre dans son corps éternel, nous te supplions d'agir. Seigneur, toi le Dieu souverain, tu fais toutes choses belles en ton temps. Alors cet après-midi, nous ne voulons pas ignorer, Seigneur mon Dieu, ce besoin des uns des autres. Alors nous réclamons ton intervention et nous te donnons gloire dans le nom de Jésus. Amen.